Journal de Rhizome. Conclusion. Calendrier organique en 13. Archives papier conservées à la bibliothèque du Couvadis. En partant, je vous souhaite à tous de mener une existence pleine de sens. J'ai longtemps cru que c'était là une affaire individuelle, comme si chaque personne était libre de donner du poids à son existence, de la remplir de beauté, d'amour et de savoir, ou bien de vent et de colère. Mais je me trompais. Ce sont les institutions qui ont toujours privé les hommes de leur liberté, de leur temps et de leur sagesse. Ce sont les institutions qui vident le sens de l'existence des hommes, qui les transforment en brutes, en fous, en assassins, en irresponsables. Ne vous désintéressez jamais de la chose publique, car c'est un monstre à surveiller sans cesse, qui vous dévorera si vous lui tournez le dos. Portez haut le besoin du sens dans la vie publique, que rien ne vous soit imposé, jamais, qui n'ait pas de sens pour vous. Chapitre 19. Mise à feu. Année terrestre 3416. Zéro heure. Le capitaine Richards avait donné l'ordre à la plupart de ceux qui travaillaient sur le pont de prendre quelques heures de repos, et notamment au lieutenant Malkin, qui devait être épuisé après son expérience frustrante sur cette maudite planète. Tout le monde devait revenir à 4 heures, afin de finaliser la procédure. Il se sentait presque seul, avec les 4 techniciens silencieux qui surveillaient leurs écrans, un casque sur la tête. Et il essayait de se départir, en vain, du sentiment d'irréalité, ou plutôt de distanciation avec le réel qui s'était emparé de lui. Depuis qu'il avait pris sa décision, il en déroulait les conséquences rationnelles, donnait les ordres qu'il fallait, prenait les mesures nécessaires, mais sans avoir l'impression de participer effectivement aux événements. C'était un sentiment très étrange que d'agir ainsi comme une marionnette de sa propre raison, en faisant taire les doutes, les questions, les scrupules qui constituaient la chair même de son humanité. Egon Richards se demandait toujours s'il fallait bombarder cette planète. Mais le capitaine Richards, lui, paraissait très déterminé. Ses paroles ne trahissaient aucun doute. Ce tiraillement interne agissait sur lui comme une déchirure, le lançait comme une douleur, l'empêchant de penser à autre chose et a fortiori de dormir. Il repensait aux arguments de Strauss, qui lui paraissaient, depuis qu'il avait pris la décision de les ignorer, pleins de bon sens. Après avoir tourné et retourné la question dans tous les sens, il finit par contacter Strauss, qui répondit immédiatement. Lui non plus, visiblement, ne dormait pas. « Major Strauss, j'espère que je ne vous réveille pas. » « Comment dormir par une telle nuit, mon capitaine ? Pouvez-vous me retrouver dans la petite salle de réunion ? Je souhaiterais m'entretenir encore une fois avec vous. » Michael sentit son cœur s'emballer, piqué par un violent espoir. « Tout de suite, mon capitaine, » dit-il simplement. Dans les coursives, l'éclairage était passé en mode nuit depuis environ 1 heure. Ce n'était pas grand-chose, un affaiblissement de l'intensité, une lumière moins chaude, plus bleue. Si l'on ajoutait cette infime variation au fait que les lieux s'étaient quasiment vidés, on pouvait dire que l'atmosphère nocturne était assez réussie. Rien à voir, évidemment, avec la nuit profonde, odorante, sonore et légèrement effrayante de l'organe. Le trajet parut long à Michael et il sentit à deux reprises une sorte de faiblesse musculaire dans sa jambe gauche. L'épuisement de la journée se faisait sentir, malgré l'excitation mentale. Michael ne dormirait pas, mais il sentait qu'il paierait cette absence de sommeil par une sorte d'usure difficilement réparable. Il tirait sur la corde et ignorait totalement à quel moment cette corde romprait. Le pont était presque désert. C'était la première fois sans doute que le major Strauss s'y rendait aux alentours de minuit. Il ne fit que le traverser, saluant silencieusement un technicien qui posa les yeux sur lui, le visage éclairé d'en dessous par la lumière bleutée de son écran. La petite salle de réunion était ouverte, et le capitaine était là, guettant à la porte, manifestement aussi tendu que lui. « Je suis désolé de vous avoir dérangé, » dit le capitaine sans lui laisser le temps de parler. « Vous devez probablement espérer que j'ai changé d'avis, mais il n'en est rien, je préfère vous le dire tout de suite. » Michael sentit l'espoir se figer en lui et la fatigue reprendre le dessus. « Que puis-je pour vous dans ce cas, mon capitaine ? J'ai besoin de comprendre quelque chose. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. Vous devez bien avoir une idée, ou à tout le moins une hypothèse, sur la raison pour laquelle les autochtones ont souhaité vous garder avec eux. Je ne m'explique pas cette condition supplémentaire qu'ils ont l'audace d'ajouter à la fin de leurs revendications. » Michael sut qu'il serait incapable de tenir son rôle sans être sincère, parce que des bouffées de mémoire capiteuses et perturbantes venaient s'immiscer dans ses pensées et envahir l'instant présent. Le visage de foudre lorsqu'elle lui avait demandé s'il aimerait vivre sur l'organe, et sa propre liberté quand il avait répondu « oui ». « Le lieutenant Malkin m'a déjà posé cette question », fit remarquer Strauss pour gagner du temps. « Mais étant donné la nature de vos relations avec lui, on peut supposer que vous ne lui avez pas fourni une réponse satisfaisante. » « En effet. » Michael inspira longuement. Il ne le souhaitait pas, mais ce fut plus fort que lui. La vérité sortit de sa bouche sans qu'il pût l'arrêter. « J'ai eu une relation avec une autochtone. » « Une relation sexuelle ?»« Pas exclusivement, mon capitaine. » « Que voulez-vous dire ?» Qu'on peut s'attacher aux gens en peu de temps. Ah, vous voulez dire que vous êtes amoureux d'une autochtone ? Michael baissa la tête. Oui, mon capitaine. Richards ouvrit la bouche puis la referma. Cette explication, à laquelle il n'avait manifestement pas pensé, le plongeait dans un abîme de perplexité. Michael se prit à espérer, naïvement, que cet homme d'âge mûr éprouverait non seulement de l'indulgence, mais peut-être de la compassion pour le jeune homme qu'il était. Il guetta un sourire attendri sur les lèvres minces de Richards. « Vous me saisissez d'étonnement, major. » C'était tout ce qu'il avait à dire, et c'était articulé d'un ton très froid. « Je comprends mieux maintenant les allégations du lieutenant Malkin, » continua le capitaine. « Et je comprends aussi que tous vos raisonnements sont entachés d'une absolue subjectivité. » Michael passa de la déception à la colère, en un instant. « Je revendique ma subjectivité, capitaine. Je la revendique comme un trésor spécifiquement humain. Analyser les situations de manière objective est l'apanage des machines. Nous, nous possédons quelque chose de beaucoup plus puissant. » « Des phrases, major, de belles phrases pour masquer votre partialité impardonnable. » « Non, pas des phrases, » protesta Strauss. « Notre sensibilité, nos émotions, nos interactions affectives et physiques avec autrui et avec le monde sont la source de notre génie. Je sais que vous avez des scrupules à massacrer ces autochtones pacifiques, et ces scrupules vous honorent, capitaine, beaucoup plus que le rationalisme qui vous pousse à les balayer. » Le capitaine Richards lui lança un regard dur et observa un court silence. « Je ne vous permets pas, major. » Vous dépassez les limites du respect que vous devez à votre hiérarchie. Je vous demande pardon, mon capitaine, et sollicite la permission de me retirer dans mes quartiers. Permission accordée, major. Les trois dernières phrases ayant été presque criées, Michael savait qu'il fallait faire un salut protocolaire pour sauver la face, et il réussit avec difficulté à en faire un correctement, sans manifester sa colère. Le capitaine Richards ne le regarda pas sortir, et Michael garda de lui l'image d'un homme buté, enfermé dans ses principes, qui regardait résolument ailleurs. Le trajet de retour vers sa cabine lui parut beaucoup plus court. La rage et la déception lui faisaient monter les larmes aux yeux et marteler le sol avec ses pieds. Quand il s'enferma dans sa cabine, qui ne lui avait jamais paru si exiguë, il s'écroula sur son lit et donna des coups de poing silencieux dans son oreiller. Où que son esprit se portât, il ne voyait rien de plus utile à faire. Il avait échoué. 2 heures. Philippe Reda respirait très calmement à présent. Il y avait eu cette montée progressive de l'angoisse, d'abord sourde, puis violente. Et puis, alors qu'il se débattait sans espoir d'en sortir, il y avait eu un déclic, un changement brusque, une porte qui s'ouvrait comme une prise de conscience soudaine. Il n'était pas nécessaire d'en sortir. C'était le signe qu'il attendait. Cette nuit était la bonne. L'angoisse cessa d'un seul coup, avec son cortège de symptômes qui refluèrent quelque part, sous sa peau, comme des insectes chassés par la lumière. Il n'éprouva plus d'étouffement, ni d'accélération du rythme cardiaque, ni de sueur. Tout s'effaça. Le silence revint dans ses organes, et Reda se sentit libre. C'était une sensation merveilleuse et nouvelle, une légèreté sans pareille. Cette nuit, les choses s'accompliraient et prendraient fin. Il y avait là un apaisement indicible. Très calme, Reda se releva et mit de l'ordre dans sa cabine. Il ne voulait rien laisser derrière lui, tout devait être net, rangé, propre. Cela ne lui prit pas longtemps, puis il s'apprêta à sortir. Pour que tout soit parfait, il fallait d'abord retrouver Strauss. Reda avait conscience que le jeune homme résisterait peut-être à son projet. Aussi, il avait décidé de ne pas lui en parler, et même, si besoin était, de lui mentir sur la nature véritable de ses intentions. Il suffisait en fait que Strauss obéisse à sa maîtresse, qu'il avait contactée d'en bas, et qui lui avait dit de quitter la sonde. Il fallait juste le pousser un tout petit peu, lui donner un peu de courage pour qu'il saute de lui-même, car il avait pour sauter ses propres motifs. Reda ne savait toujours pas pourquoi le départ de Strauss avait tant d'importance pour lui. C'était peut-être pour assouvir une sorte de besoin de symétrie. Strauss devait vivre pour qu'il puisse mourir convenablement. C'était une magie du sang, très ancienne, très archaïque, qui postulait un principe d'équilibre. Une vie pour une mort, l'organe pour la sonde. Des difficultés se présentaient cependant, malgré toute cette clarté aveuglante. Il ne savait toujours pas où se trouvait la cabine de Strauss. Il supposait cependant que cette information serait affichée sur le plan du vaisseau qui ornait le mess des officiers. Et, à cette heure tardive, il risquait de ne pas rencontrer grand monde. Cela serait un peu long, certes, mais il avait beaucoup de temps devant lui. Bientôt, il aurait l'éternité. 2h30. L'ingénieur Ido s'agitait dans son sommeil. Sous son front plissé, un univers inquiétant s'enroulait autour de son esprit. Il se trouvait dans un vaisseau, qui ressemblait au Courvadis par la couleur d'obsidienne de ses matériaux, mais qui était en état de fonctionner, comme la sonde. Ce vaisseau avait été infecté ou infiltré par quelque chose d'étranger, et Ido faisait les 100 pas dans les coursives désertes, persuadé d'être talonné par un mal inconnu et invisible. Il entendait des bruits incompréhensibles, et parvenait essoufflé à sa propre cabine. Là, il découvrait ses propres affaires comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, et il trouvait parmi elles des armes de toutes sortes, des lames, des fusils, et des poisons malodorants sur des fioles étiquetées d'une tête de mort. Dans la salle d'eau de sa cabine, il voyait avec horreur des litres de sang maculer les mailles de la douche, du lavabo et des toilettes, tandis que le mot « destruction » était tracé, dégoulinant comme dans un film d'horreur, sur le miroir. Il s'éveilla alors, traversé par une sorte de décharge électrique qui bourdonna à l'intérieur de son crâne. Il ne s'était jamais réveillé de cette façon, et un sentiment de peur lié à la fois à son cauchemar et à ce bourdonnement intérieur s'empara de lui. C'était la 2e fois qu'il avait l'impression qu'il ne s'appartenait pas. Il ne savait comment le formuler autrement. La 1re fois, cela avait été lorsqu'il avait fait cette crise, durant la réunion où on lui avait donné l'ordre de redescendre sur l'organe. Même s'il n'avait jamais été un fervent adepte des théories de l'inconscient, il avait bien dû reconnaître ici que quelque chose de cet ordre était à l'œuvre pour le pousser à cette crise de folie. et ce quelque chose était à nouveau à l'œuvre, il le sentait confusément. Il se leva et se rendit dans la salle d'eau, où les mailles de la douche, du lavabo et des toilettes étincelaient de blancheur. Le miroir ne reflétait que son propre visage tendu, qu'il regarda avec un sentiment d'étrangeté. Une envie était en train d'enfler en lui, une envie qui ne lui était pas familière et qu'il voyait briller dans ses yeux fixes. De quoi avait-il donc envie? Une envie croissante, envahissante. Il eut l'impression qu'il devait sortir pour le découvrir, qu'il devait quitter sa cabine et parcourir le vaisseau. Le visage rafraîchi, un t-shirt blanc passé sur son pantalon de nuit, Ido sortit de sa cabine. Le rêve et la réalité, à cette heure creuse de la nuit, s'épousaient dans une pénombre indistincte. Ido marchait, sans savoir pourquoi, guettant à l'extérieur de lui-même un sens à la compulsion intérieure qu'il éprouvait. Et cela arriva lorsqu'il passa devant le matériel de sécurité placé sous vitre tous les 20 mètres dans les coursives. Une combinaison étanche, un extincteur, une bouteille d'oxygène et une hache. La vitre vola en éclats avant même qu'il eût pleinement conscience de ce qu'il faisait, et il se saisit de larmes, dans un état second, avec en tête les images perturbantes de son rêve. Le mot « destruction », en lettres de sang, découlinait dans son esprit malade. À chaque carrefour désert, il s'orientait, sans hésiter. La partie lucide de l'ingénieur Ido s'étonnait de cette détermination dont il ne comprenait pas la provenance et s'effrayait de ses conséquences. Que lui arrivait-il? Pourquoi se dirigeait-il avec une telle assurance vers la partie centrale de la sonde avec une hache? Au bout d'un quart d'heure, Ido aperçut une silhouette en uniforme qu'il reconnut pour celle du soldat Norka. L'homme était en faction au croisement de 4 coursives et il salua amicalement l'ingénieur. « Eh bien, ingénieur Ido, on a une insomnie ?» Ido aimait bien Norka. C'était un homme sympathique, toujours affable, dénué de la moindre agressivité. Il aurait voulu le supplier de s'enfuir, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Au lieu de cela, Ido s'approcha à distance de contact, leva sa hache et la battit, horrifié, sur la tête de Norka, dont les yeux exprimèrent, à l'instant suprême, une surprise presque comique. Ido resta là, quelques secondes, à regarder la mort qu'il venait d'administrer avec tant de brutalité. Puis il reprit sa hache et poursuivit son chemin. 3 heures.
Michael Strauss. Michael Strauss.
La voix était étouffée, mais distincte. Michael sortit de son lit et se dirigea machinalement vers la porte de sa cabine, car il avait cru reconnaître l'intonation particulière, à la fois précise et pressante, de Philippe Reda.
Reda, c'est vous? Ouvrez-moi.
Michael ouvrit. Et Philippe Reda, avec un léger mouvement de recul sur le seuil, pénétra dans la cabine. Michael voyait bien que cette intrusion dans son intimité, dans son espace saturé de sa propre odeur corporelle, lui coûtait. Il savait aussi que la moindre sortie hors de sa cabine, a fortiori dans un quartier lointain et inconnu du vaisseau, représentait pour lui presque une torture.
« Que faites-vous ici à une heure pareille ?»«
J'ai réfléchi, Major Strauss. » Et j'avais besoin de partager mes réflexions avec vous. » Michael, un peu décontenancé, l'invita à s'asseoir sur le seul siège disponible en dehors de son lit.
« Quel est votre plus grand désir, Michael Strauss ?»«
Mon plus grand désir, vous le savez bien, éviter le massacre des habitants de l'organe et m'installer à sa surface. »«
Avez-vous réussi à éviter le massacre ?»«
Non, j'ai échoué, lamentablement. Le capitaine ne m'a pas écouté. »
Et qu'êtes-vous en train de faire?
Ce que je suis en train de faire, mais...
Rien, j'essayais en vain de dormir, je... Qu'est-ce que vous attendez, Strauss? Êtes-vous aux arrêts? Êtes-vous empêché dans vos mouvements? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche physiquement de rejoindre l'organe?
Mais je n'en ai pas reçu l'ordre, je...
Quels ordres le capitaine a-t-il donné?
L'ordre de bombarder la ville.
Allez-vous continuer à obéir aux ordres pendant longtemps? Ou bien allez-vous désobéir une bonne fois pour toutes?
Comme Touré, c'est ça?
Oui, je vous le dis depuis le début. Je vous avais dit de ne pas remonter sur la sonde.
Mais il fallait bien quelqu'un pour plaider leur cause.
Et maintenant, est-ce qu'on vous laisse plaider? Est-ce qu'il y a une seule bonne raison pour vous de rester à bord de la sonde? Michael restait muet, le cœur battant, tout à coup parfaitement éveillé et ne ressentant plus le moindre signe de fatigue. « Demain, vous allez participer au bombardement. Vous allez vivre, manger, dormir, pendant des années, aux côtés des hommes qui auront bombardé l'organe. Puis vous allez partir de cette planète, à tout jamais, et vous passerez le reste de votre vie dans des cabines identiques à celle-ci. Ne pensez-vous pas qu'un jour vous regretterez d'avoir passé cette nuit à essayer de dormir ? N'avez-vous pas mieux à faire ? La planète est là, tout près, à un saut de puce. Vous n'aurez plus jamais d'autre occasion de réaliser votre rêve. » « Vous avez raison, Philippe. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle ne reste pas à bord de la sonde. Peut-être a-t-elle ses raisons. Comme le capitaine Richards a les siennes, vous devez juste choisir votre camp, Major. Si je me sers sans autorisation de l'annexe, il est possible qu'il m'élimine en vol. Oui, mais il est possible aussi qu'il ne s'en aperçoive que trop tard, ou qu'il considère que votre élimination ne vaut pas tant de dégâts matériels, ou qu'il compte sur le fait que la ville sera de toute façon bombardée. » « Elle le sera, » dit Michael gravement. « Et ma place est là-bas, avec eux, avec elle. J'essaierai de les prévenir à temps, ou bien je connaîtrai leur destin. » « Parfait. Mais il reste une difficulté. Il faut que quelqu'un vous aide à faire atterrir l'annexe. »« Vous allez m'aider ?»« Oui, mais nous devons faire vite. Je n'ai pas que cela à faire. » Michael regarda attentivement le visage de Reda, qui lui parut comme illuminé de l'intérieur, mais il préféra ne rien demander. Quelques minutes plus tard, habillé avec un sac léger dans lequel il avait mis pêle-mêle quelques objets personnels, il suivait Reda dans les coursives désertes. Leurs pas résonnaient dans l'espace clos. Il fallait traverser une grande partie du vaisseau pour arriver au hangar de l'annexe. Ils croisèrent quelques hommes en faction, quelques promeneurs nerveux qui se rendaient sur la promenade pour puiser un peu de sérénité dans la contemplation de la planète. C'était une nuit particulière, qui tenait chacun en suspens, dans l'attente de ce matin à la fois improbable et certain, où la sonde utiliserait pour la première fois, contre des humains, sa puissance de feu. Cette imminence de la destruction se conjuguait à l'attrait magnétique de la planète, qui déroulait à quelques kilomètres sous leurs pieds, ses beautés émouvantes. Tous les membres de l'équipage se sentaient agités d'un grand trouble, et l'on pouvait presque entendre, dans le silence des couloirs vides, le murmure des multiples draps que l'insomnie froissait sans cesse derrière les portes des cabines, et deviner le cliquetis humide des paupières qui s'ouvraient et se fermaient compulsivement. 3h30. De loin, dans la pénombre bleutée, Michael eut du mal à reconnaître l'ingénieur Ido. Peut-être parce qu'il marchait avec une étrange régularité, comme une machine, ou parce que ses gestes étaient empreints d'une sorte de raideur. Mais à une dizaine de mètres, il le reconnut tout à fait, et toucha le bras de Reda comme pour l'avertir d'un danger. Les deux hommes s'arrêtèrent, instinctivement, devant cette vision en marche. Ido portait à la main un objet long qui était pointé vers le bas, et à mesure qu'il avançait vers eux, il devenait évident que ce n'était pas à cause de la pénombre que son visage, son pyjama et ses mains étaient tachés de sombre. À cette distance, il était impossible de discerner l'expression du visage, mais on voyait luire le blanc des yeux comme les prunelles d'un chat. À 5 mètres, lorsque Ido traversa la flaque de lumière bleutée qui tombait du néon, la vision fut complète et Michael ne put retenir une exclamation de terreur. Ido était couvert de sang, et ce qu'il tenait à la main était une hache dont la lame sanglante répandait sur le revêtement imperméable du sol une traînée de perles rouges. Il s'approcha encore. Reda releva la tête et regarda Ido en face. C'était bien là une image de la mort, de cette mort avec laquelle il avait pris rendez-vous cette nuit même. Mais ce n'était pas la bonne. Il y avait mille et une morts, comme il y avait mille et une femmes, et il n'était amoureux que de l'une d'entre elles. Celle-là lui faisait horreur, et Reda soutint en tremblant le regard de Ido, tandis que ce dernier levait lentement la main qui tenait la hache. « Non !» cria Michael. Et ce simple cri détourna l'attention de Ido, qui le considéra de pied en cap pendant un instant qui lui parut interminable. Alors il se passa quelque chose d'incompréhensible. Le meurtre qui brillait dans ses yeux s'éteignit, sa main retomba, et il poursuivit son chemin, du même pas mécanique, sans se retourner une seule fois vers les deux hommes qui l'avaient épargné. Michael et Reda, Pantelon, le regardèrent s'éloigner et disparaître à l'angle d'un coude. « Il est complètement fou !» murmura enfin Michael. « Il faudrait prévenir quelqu'un, il va faire un carnage !» Philippe Reda regarda Michael comme s'il voulait percer le fond de son âme. Était-il vraiment si naïf? Quelle importance cela avait-il? N'avait-il pas compris que lui-même emporterait toute la sonde dans sa chute? « Moi aussi je suis fou, » dit-il, « mais vous devez rester concentré sur votre tâche. Vous devez quitter ce vaisseau de malheur. Je m'occuperai des autres après. Vous ne venez pas avec moi? Non, j'ai d'autres choses à faire. » Michael lui rendit son regard pénétrant. Il savait qu'il y avait là quelque chose à creuser, quelque chose qui était en rapport avec son désir de mort, mais il savait aussi que s'il se mettait à réfléchir à cela, il ne partirait pas. Il se sentait étrangement dissocié, incapable de se reconnaître tout à fait dans les actes qu'il était en train de commettre, ni même dans les événements qui étaient en train d'arriver. Était-ce vraiment lui, Michael Strauss, qui s'apprêtait à voler l'annexe pour déserter? Était-ce vraiment lui qui venait d'échapper par miracle à la course mortelle de l'ingénieur Ido? Le capitaine Richards avait-il vraiment ordonné ce bombardement odieux? Tout cela était si étrange que l'action lui paraissait momentanément plus sûre et plus simple que la réflexion, et il suivit Reda sans poser d'autres questions, jusqu'au hangar et au quai. Le spectacle qui les y attendait les plongea à nouveau dans la sidération, et Michael sentit s'agrandir la fracture entre son esprit et son environnement, comme s'il assistait à une étrange fiction qu'il n'avait pas de prise immédiate sur lui. Les quelques techniciens et mécaniciens qui étaient astreints cette nuit ne seraient pas relevés dans leur service. Ils gisaient, massacrés, saisis au beau milieu de leurs gestes professionnels, par une mort si brutale qu'ils avaient parfois encore la main sur une manette ou le visage effondré sur un clavier. Michael et Reda se promenèrent un instant dans cet instantané macabre. Ils firent le tour du vaste hangar et dénombrèrent 6 cadavres, dont la plupart étaient familiers à Reda, qui avait travaillé avec eux avant de sombrer dans sa dépression. Michael vit Reda, si sûr de lui jusqu'à présent, figé devant le visage paisible d'un mort, dont la poitrine avait été sauvagement défoncée à la hache, en train de déchiffrer peut-être l'énigme de ce sourire qui flottait sur les lèvres bleuies. Le matériel n'avait pas été endommagé. La folie meurtrière de Ido s'était abattue sur les hommes. « Philippe ?» demanda Michael. Reda sortit avec peine de sa fascination funèbre. Ce sont Glux, Chain et Cinnamon, et là, Volberg et Lacombe. La dernière, je ne la connais pas. Michael se frotta les yeux comme pour se réveiller d'un cauchemar. Les communications fonctionnent-elles encore dans le centre de contrôle du quai? Ils se rendirent à l'intérieur du box vitré, à travers lequel ils avaient vu le corps de Cinnamon, fauché d'un coup de hache dans le dos. Reda le déplaça avec beaucoup de délicatesse et testa les commandes. « Tout fonctionne, Major Strauss. Les communications fonctionnent et les commandes de l'annexe également. Vous pouvez me mettre sur le canal qui communique avec le pont supérieur ?»« D'accord. » Reda fit semblant de mettre en place un canal de communication et passa le micro à Michael. « Ici le Major Michael Strauss. Je signale que l'ingénieur Ido semble atteint d'une crise de folie meurtrière. Il a été vu dans la coursive 27 et se dirige vers le centre de la sonde, armé d'une hache. Il a laissé plusieurs cadavres derrière lui. Veillez à vous préparer à une attaque. « Cela suffit, » dit Reda. « Voulez-vous que je le fasse passer en boucle toutes les minutes pendant un quart d'heure ?»« Oui, ce serait parfait. » Reda lança une procédure imaginaire, tandis que Strauss, le souffle court, tentait de rassembler ses esprits. « Je vais vous faire décoller, tout de suite, » enchaîna Reda. Le plus important est que vous puissiez partir avant qu'on vous découvre. » Michael semblait avoir rajeuni de 10 ans, et son visage d'adolescent, qui ressurgissait, emplissait Reda d'une sympathie presque paternelle. « Faites vite maintenant. Regardez, nous sommes encore un peu loin de la ville. Vous risquez d'atterrir assez loin du foyer d'habitation. »« Ne devrait-on pas attendre un peu ?» demanda Michael. « Non, » dit Reda. « Les réglages sont longs, cela va me prendre du temps. » « Installez-vous dans l'annexe, fermez les portes et ne sortez que si je vous le dis. » Michael le dévisagea un moment. « Pourquoi ne venez-vous pas avec moi ? » dit-il. Vous allez vous tuer, n'est-ce pas ? Je ne viens pas parce que c'est l'heure, Major Strauss. C'est l'heure pour vous, comme pour moi, d'accomplir notre destin. Ne vous occupez que de vous. Je veux vous savoir sur l'organe, c'est très important pour moi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je vous lègue la vie, Major Strauss. Une belle vie, à l'air libre. Ce legs est la chose la plus importante pour moi, à présent. Michael, étranglé par un torrent de sentiments tumultueux, le serra brièvement contre lui et se dirigea vers l'annexe. Il s'y installa, pour la troisième fois depuis quelques jours, et tourna le dos à ce hangar désolé où les corps gisaient dans leur propre sang. Tout, dans la sonde, lui évoquait la mort, depuis ses cadavres défigurés jusqu'à la vision cauchemardesque de l'ingénieur Ido, en passant par les pulsions de Philippe Reda et par la résolution funeste du capitaine Richards. Il se souvint de ces mots qui avaient résonné dans tout le vaisseau. « Pour la première fois depuis que j'ai l'honneur de commander ce vaisseau, je vous demande d'enclencher la procédure 43 bis du code spatial. » C'étaient là des mots très rationnels et très polis, des mots plus honorables, sans doute, que le pyjama sanguinolent de Ido. Et pourtant, ces mots froids, prononcés par cet homme raisonnable, auraient des conséquences aussi horribles et d'une envergure 100 fois plus importante peut-être que la fureur de l'ingénieur aliéné. Les bombardements aussi fracasseraient des crânes, trancheraient des membres, ouvriraient des poitrines. Il y aurait parmi les victimes des centaines d'enfants. Le fait que tout cela se produise à distance, le fait que, à bord de la sonde, on ne sente pas l'odeur du sang, qu'on ne voit pas l'indicible désordre du carnage, rendait-il la chose moins cruelle, moins immorale ? Michael songea qu'il quittait un vaisseau hanté par la mort pour se rendre sur une planète où la mort allait pleuvoir. Mais la planète était forte et vaste, et la vie en elle palpitait si fort que la mort ne pourrait jamais l'atteindre en profondeur. 4 heures. C'était comme s'il était à bord d'un véhicule télécommandé. Il n'avait pas la main. C'était aussi simple et aussi bête que ça. Il avait parfaitement conscience d'être en train de se diriger vers le pont central et de tuer tous ceux qu'il rencontrait sur son passage. C'était une chose nette, qui se dégageait au fur et à mesure, comme lorsqu'on regarde le début d'un film et qu'on se demande où le récit veut en venir. À un moment, on parvient à anticiper, à comprendre la direction du récit. L'ingénieur Ido en était là, à ce point précis, lorsqu'il passa devant le quartier des personnels de classe C. C'était en vérité une aile entière de la sonde, comme une presqu'île sur une carte de géographie terrestre. Elle constituait un appendice du vaisseau. Les 4 appendices qui contenaient respectivement les quartiers C, l'usine de production, le hangar à vaisseau et les quartiers A, étaient souvent appelés les pattes de la sonde. La conséquence de cet emplacement particulier était qu'il existait des dispositifs de sécurité qui permettaient de bloquer totalement l'articulation entre le corps du vaisseau et ses pattes. Un incendie, une collision, une dépressurisation quelconque dans l'une des pattes, et les lourdes doubles portes scellaient le corps du vaisseau, le rendant imperméable à ce qui se passait de l'autre côté, le feu, les explosions et les supplications des hommes piégés à l'intérieur. À peine eut-il pensé à cela, que l'ingénieur Ido le regretta. Il constata un ralentissement dans sa marche, et l'idée d'une destruction massive s'immissa dans son esprit, pour s'y développer avec une rapidité stupéfiante. Il était parfaitement possible de tuer d'un coup les quelques 80 personnes qui dormaient là. L'ingénieur se surprit à faire des calculs techniques, à comparer des méthodes. Son intelligence collaborait avec son corps, c'était cela le plus étrange. Il arriva rapidement à la conclusion que le plus simple serait de déclencher un incendie électrique non loin des portes étanches. Il aurait ainsi le temps de sortir avant leur fermeture. Il s'approcha du tableau électrique le plus proche des portes et commença des manipulations qui, malgré la hâte et l'absence d'outils, se révélèrent étonnamment précises. Il nota, comme un fait remarquable, que la destruction était toujours plus rapide que la construction. Tuer quelqu'un était instantané, quand la formation d'un adulte prenait une 20aine d'années. Détruire la Terre avait pris bien peu de temps à l'humanité, 400 ou 500 ans, quand des milliards d'années avaient été nécessaires à sa formation géologique, à la lente maturation de la vie, à sa sortie de l'eau, à son déploiement dans tous les recoins de l'espace. Saboter ce tableau électrique, provoquer une surtension et allumer l'étincelle de l'incendie ne lui prit que quelques minutes. La surtension se répandit comme une traînée de poudre dans toute l'aile du quartier C. Il avait calculé que des foyers d'incendie nombreux allaient éclater en même temps. Lorsque le taux de dioxyde de carbone serait trop élevé dans l'air, les portes se bloqueraient instantanément. L'ingénieur Ido ne resta pas pour les voir. Il poursuivit son chemin solitaire, sa hache à la main, à travers la sonde. Au même instant, le lieutenant Malkin pénétrait sur le pont. Les techniciens et les officiers présents le saluèrent, avec une certaine solennité, mais il les regarda à peine, cherchant des yeux le capitaine Richards. Les deux hommes se sentaient presque seuls à bord, et ils partagèrent un regard appuyé et d'une extrême gravité. Ils s'apprêtaient, avec une part presque égale de responsabilité, car Malkin avait conseillé Richards, à transformer une idée en réalité. L'idée du bombardement était facile à manier, car les idées ne pèsent pas lourd. Mais la réalité est infiniment pesante. Elle est lourde de ses mille détails, de sa temporalité, de son espace, de ses ramifications interminables et imprévisibles. Le bombardement réel allait bientôt prendre corps, il allait entrer dans l'histoire, se doter d'une date, d'une heure, de coordonnées géographiques, d'un rayon d'effet. Il allait avoir un bilan matériel et humain qu'il était impossible de prévoir. Comme un bébé qui naît échappe pour toujours à sa mère en venant au monde, un événement lâché dans la réalité échappe pour toujours à ceux qui le déclenchent. Le lieutenant Malkin essayait de chasser cette pensée, mais le capitaine Richards, lui, s'y complaisait jusqu'à l'obsession. 4h10. Par un hasard troublant qui parut de mauvais augure à Richards, alors que tout le monde était prêt pour lancer la pré-procédure numéro 43 bis, les trois notifications lui parvinrent en même temps. La première et la seconde étaient purement techniques. L'ordinateur de bord signalait d'une part un incendie de classe 3 dans le quartier C et indiquait que la procédure d'isolement de la zone ignée était enclenchée. D'autre part, il indiquait que l'annexe de la sonde était en train de décoller avec une trajectoire verticale en direction de l'organe. La troisième notification émanait d'une voix humaine affolée. Il s'agissait du soldat Wilson qui avait du mal à articuler un propos cohérent, mais il était question de mort, de l'ingénieur Ido et d'une hache. Tous les hommes, y compris le second, s'étaient figés dans leurs gestes, et tous étaient suspendus aux prochaines paroles du capitaine. C'était dans ces moments-là qu'on était véritablement un chef, quand il fallait prendre des décisions que personne d'autre n'avait envie de prendre, mais dont tout le monde comprenait l'urgence et la nécessité. Que quelqu'un essaye de comprendre ce que raconte Wilson. Combien y a-t-il de personnes dans le quartier C à l'heure qu'il est ? 78. Le feu est-il en train de progresser ou de régresser ? De progresser à grande vitesse, capitaine. Le capitaine Richards avait désespérément besoin de temps et de réflexion. Mais il sentait bien qu'il n'en avait pas. Le lieutenant Malkin, qui avait pris la communication de Wilson, intervint. L'ingénieur Ido semble atteint d'une forme de folie homicide. Il semble qu'il y ait des cadavres le long de sa route et qu'il se dirige vers le pont central. C'est une priorité, dit Richards. Il faut l'appréhender et le mettre hors d'état de nuire. Lieutenant, je vous laisse vous en occuper. Le lieutenant Malkin hésita un bref instant, puis il ordonna à deux hommes de le suivre et il quitta précipitamment le pont, l'arme au poing. Quelles sont les options pour l'incendie ? Demanda Richards à son conseiller technique. Nous pouvons ouvrir manuellement les doubles portes et essayer de porter secours aux victimes dont la vigilance est déjà probablement altérée. Cela sauvera probablement de nombreuses vies. Le risque que l'incendie se déclare dans l'ensemble du vaisseau existe cependant, mais je pense que nous devrions le courir. Très bien, organisez les secours. Laissez-moi les hommes strictement nécessaires sur le pont pour la procédure 43 bis. Et que fait-on pour l'annexe ? Demanda le technicien préposé au radar, qui suivait sur son écran l'évolution de l'annexe vers le sol de l'organe. Y a-t-il quelqu'un à bord ? Je ne sais pas, je vais chercher. Le technicien chercha les vidéos de surveillance du hangar et tomba sur les images de Ido arrivant et massacrant les six mécaniciens. La vidéo ne continuait pas au-delà. Le capitaine déglutit avec difficulté. « Vous êtes sûr que ce n'est pas lui qui s'est enfui ?»« Oui, ces images ont été prises à 2h55. L'ingénieur Ido a été vu il y a moins de 10 minutes par Wilson. » Richards ne comprenait pas. Ido avait-il des complices ? Avait-il seulement saboté l'annexe, afin que personne ne puisse prendre la fuite ? « L'annexe n'est pas une priorité, » dit-il d'une voix rauque. « Nous devons nous concentrer sur l'incendie, sur la crise de folie de Ido et sur la procédure 43 bis. » S'adressant à l'officier chargé du conseil technique, il dit « Supervisez le sauvetage des hommes du quartier C. Ne lésinez pas sur les moyens. » L'homme se mit aussitôt à lancer des ordres dans son intercom et à saisir des lignes de commande sur l'ordinateur de bord. « Enseigne cartridge. Tenez-moi au courant toutes les 5 minutes de la situation de l'incendie et de celle du lieutenant Malkin. » « Bien, capitaine. » Richard soupira. Déléguer était le plus grand avantage des chefs. Déléguer permettait de se concentrer sur un seul problème à la fois. « Enseigne Mouse Guard. Maintenant, vous pouvez enclencher la pré-procédure. »
4h30. Philippe Reda avait fantasmé ce moment tant de fois et avec tant de variantes différentes que ses gestes paraissaient couler de source. Après avoir fait décoller la navette, il était retourné contempler le sourire énigmatique sur le visage du mécanicien Glux, et il lui avait fermé les yeux, très doucement, avant de quitter le hangar. Il s'était dirigé vers la salle des machines avec une certaine lenteur. Peut-être aurait-il dû se dépêcher un peu plus, afin d'éviter que la sonde ne bombarde l'organe. Mais il avait envie de profiter de cette dernière marche, de ce rituel purificateur. Il voulait savourer le salut de Michael Strauss. Il voulait prendre le temps d'imaginer sa vie sur l'organe, son bonheur parmi les arbres et les cascades, les femmes et les oiseaux. Des images d'Éden fleurissaient dans son esprit, et il avait presque l'impression que c'était lui, Philippe, qui allait atterrir dans ce tableau multicolore. Pourtant, il le savait, ce n'était pas tout à fait le même voyage qu'il s'apprêtait à faire. Il y avait, il ne pouvait le nier, une petite angoisse, un peu du même ordre que quand on va à un premier rendez-vous amoureux ou quand on se rend à l'oral d'un examen où l'on a très envie de briller. Il y a le vertige dans le ventre, la boule dans la gorge, mais on se sent extraordinairement vivant. Philippe Reda n'avait jamais joué dans une pièce de théâtre, mais il pensait que c'était cela qu'on appelait le trac. Le trac pour une drôle de représentation sans public. Il jeta un œil à sa montre lorsqu'il arriva à la salle des machines. 4h30. Cela lui laissait une demi-heure pour faire son travail, ce qui était plus que ce qu'il avait espéré. Il avait vu, de loin, des mouvements inhabituels du côté des quartiers C, mais il supposait que c'était l'ingénieur Ido qui avait semé la pagaille. Cela était encore un signe. Il n'aurait sans doute pas été aussi facile de faire décoller Michael Strauss si Ido, dans son escapade mortelle, n'avait pas semé le chaos derrière lui. Il semblait que tout le monde maintenant se précipitait vers les quartiers C et que le reste du vaisseau était totalement désert. Le chemin vers la salle des machines fut si dénué d'obstacles qu'il en fut presque déçu. Tout était facile, trop facile. Pouvait-il être si facile de mourir ? Philippe connaissait la salle des machines aussi bien que le hangar. Il y avait travaillé pendant 12 ans et avait conservé en mémoire tous les codes et toutes les procédures. Il n'avait été affecté au hangar que beaucoup plus tard. Il se souvenait très bien des consignes de sécurité répétées journellement par son officier de référence. « On ne vous considère peut-être pas, mais vous êtes responsable de la sécurité de tout le vaisseau. » Un faux pas avec le réacteur nucléaire et c'est l'explosion en chaîne. Le mécanisme était un peu compliqué, mais Reda en maîtrisait les arcanes. Il savait exactement quels gestes il fallait à tout prix éviter de faire, et c'était ces gestes-là, précisément, qu'il allait accomplir maintenant. Augmenter la puissance du réacteur à son maximum, puis couper totalement le circuit de refroidissement, et, enfin, lorsque la chaleur dans le moteur serait exponentielle, irrémédiable, lorsque plus rien ni personne ne serait capable d'arrêter la réaction en chaîne, il suffirait d'attendre. Il ne fut pas difficile d'actionner les différentes manettes. Finalement, la mort était une somme de gestes banals, dont aucun ne revêtait la portée symbolique qu'il redoutait. Lors de ses longs mois de dépression, alors qu'il se battait contre ses idées noires, il s'était représenté le moment ultime de multiples fois. Il se rendait compte à présent qu'il n'y avait pas de moment ultime, pas d'instant fatidique. Il n'y avait qu'une continuité familière. La dernière seconde n'aurait rien de spécial. Ce serait simplement la dernière, parce qu'il n'y en aurait pas d'autre après. Cette pensée, tandis qu'il regardait l'aiguille du thermomètre vibrer dans les hauteurs les plus rouges, le soulagea. 4h50. Maintenant, Ido entreapercevait le dénouement. Une telle équipée n'avait qu'une seule issue possible, et bien qu'il comprît toute la nécessité de ce qui se déroulait, son sentiment d'horreur n'en était pas diminué, au contraire. C'était là tout le ressort tragique. Ido regardait vers l'avant avec une fascination mortelle,
et était incapable de faire dévier sa trajectoire. Comme un papillon attiré par la flamme, il marchait vers le pont central. Il en était maintenant très proche, et quand il aperçut des silhouettes armées qui lui faisaient face, il comprit que sa course s'arrêterait là. Qu'il les tuât ou non, il y en aurait d'autres après eux. Sa progression furieuse finirait par se heurter à un mur. Quand il reconnut, parmi les trois silhouettes, celle du lieutenant Malkin, il eut un étrange regain d'énergie, et il sut que c'était vers les chefs que sa fureur dévastatrice était tournée depuis le début. Son but, au pont central, n'était autre que de tuer les chefs. Tandis qu'il accomplissait sans y réfléchir les gestes désespérés d'un combat qu'il n'espérait pas gagner, sa curiosité prit le dessus sur tous ses autres sentiments. Il esquiva des coups de feu, il ne les compta pas, et en encaissa peut-être un, superficiel, à la jambe, qu'il ne sentit pas. Pourquoi avait-il cette compulsion à tuer les chefs? Pourquoi cette nuit? Pourquoi avait-il eu une crise de folie similaire lorsqu'il avait été décidé qu'il se rendrait sur l'organe? Tout à coup, la lumière se fit dans son esprit scindé. Tandis que le lieutenant Malkin le mettait en joue, il brandit sa hache et la projeta avec une force décuplée en direction de l'homme le plus proche de lui. Ce mouvement en avant lui servit en même temps de parade et la balle passa si près de son oreille qu'il entendit son sifflement ophidien. Tout était limpide à présent. Il obéissait sans le vouloir aux autochtones de l'organe. Il ne savait comment, par cette acupuncture étrange dont il avait eu le tort de sous-estimer l'importance, des suggestions profondes avaient été implantées dans son esprit. Il n'y avait que cela qui pouvait expliquer sa réaction lorsqu'il s'était agi de braver l'interdiction de l'autochtone de revenir sur la planète. Que cela, encore, qui pouvait expliquer cette compulsion meurtrière irrépressible. Il entendit le cliquetis de l'arme de Malkin et amorça une nouvelle esquive, en bondissant pour récupérer sa hache dans le corps de sa victime. Les autochtones se servaient de lui pour décimer leurs ennemis, pour couper la tête de l'hydre et désorganiser tout le vaisseau. Comme cela était évident! Et comment avait-il pu négliger les indices de ce qu'il avait pourtant eu sous les yeux depuis le début? La balle de Malkin, cette fois, ne le rata pas, et Ido éprouva une légère surprise sous l'effet du choc dans sa poitrine. Il sentit la vie s'écouler de lui à flots rapides. Mais, étrangement, ce fut à une scène en apparence anodine qu'il repensa à cet instant. Cet enfant, ce bébé que sa mère laissait courir sur un rebord vertigineux. S'il ne risquait rien, bien sûr, c'était parce que sa mère était en capacité de contrôler son corps. Cette découverte étira les lèvres de l'ingénieur Ido en une sorte de sourire au moment de sa mort, car il éprouva la joie spéciale, impersonnel et intense, que l'on éprouve lorsque la solution d'un problème mathématique difficile nous apparaît enfin, entière et lumineuse, alors qu'on ne la cherchait plus. 4h57. Anomalie fonctionnelle dans le réacteur nucléaire, annonça l'ordinateur de bord. Mais dans la cohue générale, ce furent les paroles de l'enseigne Cartridge qui parurent prioritaires. La situation est sous contrôle, annonça Cartridge avec un trémolo de fierté. Le lieutenant Malkin a abattu le forcené et l'incendie semble en bonne passe d'être contrôlé. Il n'y a que 4 blessés à déplorer pour l'instant. Merci, Cartridge. Mouseguard, l'anomalie dans le réacteur nucléaire est-elle de nature à nous retarder? Affichez le rapport d'anomalie sur l'écran T. La situation est sous contrôle. Cela avait été les termes exacts du jeune homme et le capitaine Richards devait s'en souvenir quelques minutes plus tard, comme d'une cruelle ironie. Certes, ces mots avaient colmaté des brèches, et des brèches béantes et douloureuses, mais l'impression que le vaisseau prenait l'eau de toutes parts ne s'était pas arrêtée pour autant. Quand il y songeait, Richards avait de plus en plus chaud. Était-ce dû à cette sensation de vertige qu'il éprouvait? D'abord, il y avait eu l'annexe qui avait décollé, et pour laquelle aucune mesure n'avait été prise. Cela constituait une épine dans le cœur du capitaine Richards depuis une demi-heure, car il lui apparaissait de plus en plus clairement que c'était cet imbécile de Strauss qui avait dû la subtiliser. Et cela l'exaspérait. En vérité, cela l'exaspérait davantage que l'incendie dans le quartier C, ou même que les meurtres qui avaient eu lieu à bord. Cela l'exaspérait parce qu'il s'agissait d'une rébellion caractérisée, d'un affront personnel, d'une remise en question de ses choix, de sa moralité, de son humanité même. Il se souvenait, le feu aux joues, des paroles emportées de Strauss. « Je sais que vous avez des scrupules à massacrer ces autochtones pacifiques, et ces scrupules vous honorent, capitaine, beaucoup plus que le rationalisme qui vous pousse à les balayer. » Comment avait-il osé? Il aurait dû le mettre aux arrêts. Les deux membres de l'équipage qu'il préférait, ceux pour lesquels il avait montré le plus d'indulgence, ceux qu'il avait défendus presque systématiquement face aux attaques du second, Touré et Strauss, étaient ceux qu'il avait poignardés dans le dos, qu'il avait trahis, lui, l'Union, et toute l'existence commune qu'ils avaient menée, en bonne intelligence, pendant des années. Toute la rage déclenchée par cette trahison se retournait maintenant, en bonne logique, contre l'organe, et Richards harcelait les techniciens pour accélérer la procédure 43 bis. Il sentait bien cependant que les conditions n'étaient pas réunies. Les manuels de l'Académie, qu'il connaissait par cœur, insistaient bien sur le fait qu'aucune action, fût-elle une action de guerre, ne devait être menée dans des conditions hasardeuses, que le moindre facteur d'incertitude devenait alors un facteur de risque. La sécurité technique, la discipline interne devait primer sur les actions extérieures. Il le savait. On le lui avait enseigné. On ne déclenchait pas une bataille en pleine mutinerie, en plein incendie, et encore moins en plein incident nucléaire. Richards le savait. Il savait qu'il aurait dû annuler la procédure, procéder à toutes les vérifications de sécurité sur le réacteur nucléaire, déployer l'ensemble de ses effectifs pour ramener l'ordre aux quatre coins de la sonde, effectuer une enquête sur les actes meurtriers de l'ingénieur Ido, envoyer d'urgence une équipe pour appréhender Strauss et ramener l'annexe. Mais ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Ce n'était pas ce pourquoi il avait préparé la sonde depuis la veille, et il lui paraissait maintenant indispensable de respecter le programme. Le programme, c'était tout ce qui lui restait, tout ce qu'il contrôlait encore. Armer les missiles. Mais Mausgaard ne répondit pas le « bien capitaine » attendu. Devant le rapport d'anomalie du réacteur nucléaire, il restait interdit, figé, la respiration de plus en plus difficile. « Mausgaard ?» Presque au même moment, une sirène d'alarme majeure se mit à résonner sur le pont. « Évacuation immédiate de tout l'équipage. Le réacteur nucléaire atteindra une température de fusion dans moins de 3 minutes. » Richards sentit les larmes lui monter aux yeux. Sur le pont, c'était une scène de panique inimaginable. Ces hommes, qui s'arrachaient leurs uniformes sous l'effet de la chaleur suffocante, hurlaient, couraient, pleuraient, se bousculaient dans une débâcle complète. À quoi cela servait-il? 3 minutes ne suffisaient pas pour évacuer. Personne n'en réchapperait. Il voulut prendre le micro pour exhorter ses hommes à mourir dignement, avec discipline. Mais personne ne l'écoutait. Il avait l'impression d'être devenu invisible. Le réacteur nucléaire. Comment cela avait-il pu arriver? Strauss et Ido étaient-ils de mèche? Avaient-ils d'autres complices? La sonde avait-elle été infiltrée par l'ennemi? Il prit conscience que les questions qui fusaient dans sa tête resteraient éternellement sans réponse et qu'elles n'avaient donc aucune importance. Avec la sensation de ne plus appartenir à la même temporalité que les hommes qui s'affolaient autour de lui, le capitaine Richards dégrafa à son tour son uniforme et tomba assis sur le sol contre la paroi de la console de commandement. Des souvenirs affluèrent à sa mémoire, en masse, en une gerbe si profuse qu'il ne savait par où la prendre. Cela lui était déjà arrivé lorsqu'il avait appris la mort de sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis plus de 10 ans. Tous les souvenirs étaient remontés à la surface, comme si une éruption sous-marine les propulsait tous d'un coup, les tics de langage et les intonations de la voix, les sourires malicieux et les regards réprobateurs, la silhouette de dos quand elle marchait dans les coursives, l'odeur de son médicament contre l'asthme. Aujourd'hui, c'était le deuil de lui-même qu'il était en train de faire. Ce qui avait provoqué cette éruption de mémoire, c'était l'imminence de sa propre mort. Il se laissa aller à cette vague puissante, qui l'emmenait loin, très loin de la sonde et du présent infernal, et il mourut, enseveli sous un kaléidoscope infini de sensations éparses, surgies de son passé, parmi un concerto de Tchaïkovski, écouté dans le vaisseau de l'amirauté un soir de son enfance, et la vision surnaturelle de la nébuleuse d'Orion lors de son premier voyage astral, dans les bras de sa jeune épouse, tendre et nue contre lui, dans le battement de cœur paisible de son aîné, dont les longs cils se refermaient doucement au crépuscule de son premier jour.